Règlement de compte. Une émission proposée par le docteur Dominique Desmichel, médecin généraliste et psychanalyste, et Simon Martin. Était-il un enfant névrosé, abusé par son père et en proie à de douloureuses insomnies, un enfant égaré dans la forêt de son inconscient, à la recherche de son identité? Et pourquoi pas? Voici donc une lecture psychanalytique du Petit Poucet, lecture parmi d'autres qui pourraient aussi bien être sociologiques, historiques, littéraires, etc. Un conte comme un rêve, raconté par un analysant sur le divan du psy. Looked up this morning, sun roses full of thought. Guns follow, they don't have nowhere to. Docteur Dominique Desmichel, bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons pour poursuivre cette exploration à l'intérieur de l'inconscient du Petit Poucet avec une lecture psychanalytique, une lecture psychique de ce conte de Charles Perrault. En tout cas, le conte n'est pas de Charles Perrault, mais nous appuyons sur le texte de Charles Perrault qui l'a reproduit en son temps. Nous avions laissé le Petit Poucet à l'intérieur de la Maison de l'Ogre. Nos auditeurs s'en souviendront et pourront retourner sur notre site internet pour réécouter l'émission précédente www.radiograndciel.fr, rubrique règlement de compte. Je disais que le Petit Poucet et ses frères venaient d'échapper à une mort certaine en échangeant les couronnes avec les filles de l'ogre. L'ogre donc égorge ses filles et le Petit Poucet et ses frères peuvent prendre la fuite à travers la forêt, et là apparaît, comme dans à peu près tous les contes, le fameux objet magique, et l'objet magique qui va entrer dans cette histoire, eh bien ce sont les fameuses bottes des sept lieues.
Oui, tout à fait. Donc il y a un autre élément qui juste avant est important, avant qu'on parle des bottes qui bien évidemment sont tout à fait essentielles, c'est que il y a d'abord cette sorte de course-poursuite. Hein. Les enfants, là, les sept enfants sont partis et ils vont se réfugier autour d'un rocher. Hein. Alors je pense que c'est un rocher creux. Il me semble qu'on peut penser que ce rocher creux, il représente une sorte de ventre maternel contenant, rassurant, en tout cas rassurant par rapport à la violence du père ogre.
Du père qui les poursuit, enfin du père de l'ogre, ouais. Qui les poursuit lui donc avec les boss. Hein.
Voilà. Ouais. Mais vous reprenez le mot père puis après le mot ogre, c'est pour ça que je dis bien le père ogre.
Le père ogre.
Hein, parce qu'il y a le père bûcheron. Ouais, ouais. Et il faut bien se rappeler pour entendre ça que probablement c'est la même chose. Le père bûcheron, ce n'est pas le père ogre, mais dans le père bûcheron, il y a du père ogre. Hein, voilà. Puis on va revoir qu'il y a encore un troisième père qui va intervenir un peu plus tard sur le plan là aussi archétypique. Donc, le père ogre, il poursuit les enfants et puis on ne sait pas très bien pourquoi, il est complètement épuisé et tous les deux, le groupe des enfants d'un côté et le père ogre, tout le monde s'endort près du rocher. Et alors, comme vous le disiez, l'intuition absolument fantastique et géniale du Petit Poucet, c'est de récupérer des bottes. On a vu dans les émissions précédentes que ces bottes, elles avaient été demandées à la femme de l'ogre. L'ogre demande à sa femme, Hein, il demande à sa femme. On pourrait se dire, bah, quand même, voilà, vous, j'imagine que vous ne demandez pas à votre femme de vous apporter vos chaussures ou de vous aider à les mettre. Hein. On met tous nos chaussures nous-mêmes. Donc, on essaye de se rappeler que le père ogre, il a demandé à sa femme de lui apporter ses bottes. On ne sait pas très bien pourquoi le petit poussé a cette idée, mais en tout cas, ça va fonctionner. Sûrement pas pour lui permettre de rentrer chez son père. En effet, on pourrait s'attendre. Hein. Voilà, il a des bottes qui permettent de courir 7 lieues à chaque pas. 7 lieues, ça doit faire 28 km. Ça va, il était déjà pas très loin de chez lui, donc il devrait y rentrer. Il devrait pouvoir y rentrer. Non, il chausse les bottes et il va retourner dans la nuit archétypique, c'est-à-dire il va retourner dans la forêt. Et si l'on pense à cette continuité du père bûcheron au père ogre, on peut penser qu'il y a pour lui une filiation à assumer, à intégrer, à intérioriser. Il faut qu'il règle l'histoire du père bûcheron. C'est son père. Le père ogre, c'est le père dans l'inconscient, c'est le père sombre, c'est le père dans la forêt. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le père, enfin ce qui est important pour lui, c'est le père bûcheron. Et on pourrait...
Mais pour sauver le père bûcheron, excusez-moi de vous couper, oui. Il retourne régler le compte au père ogre.
Voilà, exactement. Ça, voilà. Il va se confronter au père ogre. Là, on pourrait se dire, il récupère les bottes, il peut se sauver. Ben non, ça suffit pas. Le compte nous dit ça suffit pas. On comprend rien pour l'instant, mais ça suffit pas. Il faut qu'il retourne, voilà.
Et là, il va avoir cet atout supplémentaire, évidemment, ces bottes magiques, quoi.
Voilà, tout à fait.
Qui vont le mettre, sinon sur un plan d'égalité, en tout cas sur un plan supérieur, même à l'ogre, puisqu'il va réussir à le battre.
Oui. Mais on pourrait se dire, par exemple, aussi que chausser les bottes de l'ogre, ça pourrait être dangereux. Hein. Ça pourrait être dangereux. Est-ce qu'il pourrait pas devenir ogre,
évidemment,
lui
hein.
C'est toujours... voilà. Alors, c'est vraiment à partir de là, lorsque le petit poussé a chaussé les bottes de l'ogre, que le conte bascule. Le père ogre s'est endormi dans le même lieu que les enfants. Et tout de suite, moi, je me dis, c'est comme s'il était redevenu un enfant. Hein, quand on est endormi, on est parfaitement vulnérable. Il faut qu'il y ait un père veilleur, une mère veilleuse. Voilà. Et bien là, il est redevenu un enfant. Et je crois qu'à ce moment-là, apparaît, juste avant l'intervention du petit poussé, un troisième père, qui est le père beauté. Je remets le casting de l'histoire depuis le début. Il y avait le père bûcheron. Le petit poussé s'est confronté au père bûcheron, qui l'a abandonné. Ensuite, il arrive... Dans la forêt, il se retrouve avec le père ogre, qui est un violeur. Et là, il se retrouve avec un père botté, hein, un père qui a des bottes. Et il lui pique ses bottes. Donc, je crois que le petit poussé récupère un objet qui est important. Et il reprend sa quête. Après le père bûcheron, après le père ogre, voilà le père botté. Alors, les bottes, c'est quoi ? On le sait tous, c'est d'abord la capacité à marcher vite, à marcher loin. Et je crois qu'elle, enfin le conte nous dit qu'elle permet au père ogre de rejoindre vite les enfants. Et le petit poussé, il semble lui aussi rejoindre vite la femme de l'ogre. Mais le conte change à l'évidence d'orientation avec la récupération par le petit poussé de ses bottes, puisque c'est la présence de ses bottes au pied du petit poussé qui va tout changer. Alors, pour moi, d'autant qu'en plus, elles sont ni trop grandes ni trop petites, hein, elles s'adaptent aux pieds, donc il y a vraiment quelque chose qui appartient d'un seul coup au petit poussé. Pour moi, ces bottes, elles s'opposent au couteau phallique. C'est-à-dire le couteau phallique, c'est-à-dire c'est le couteau violeur, et les bottes, c'est un élément positif, vivant, contenant. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le couteau, la violence, l'épée, la lance... Et de l'autre, il y a la coupe, le contenant maternel. Évidemment, je les oppose de manière un petit peu schématique. Hein. Il y a une dimension positive au masculin et une dimension négative au féminin.
Est-ce que ça signifie qu'il y aurait un aspect positif au père ogre ?
Ben, je pense que tant qu'il n'a pas ses bottes, non, probablement. Mais là, lui, à partir du moment où il récupère ses bottes, il peut se déplacer, mais on voit qu'il est pratiquement plus dangereux, hein, puisqu'il est capable de courir, mais il n'est même pas capable de retrouver les enfants. Et puis en plus, il s'endort, comme si, ayant chaussé ses bottes, il redevenait un petit enfant. Hein. Voilà. Donc je pense qu'on peut se dire, en effet, pour répondre exactement à votre question, que les pères ogres pédophiles, eh ben, ils ont peut-être à l'intérieur d'eux-mêmes des côtés positifs. Mais évidemment, à un niveau profond, à un niveau inconscient, à un niveau archétypique. Donc je crois que, c'est mon idée ici, que les bottes représentent la polarité positive de l'archétype du père, au-delà de sa polarité ogre, et qu'elles appartiennent au fond, et qu'elles représentent au fond, je dirais même, le côté féminin qui manque depuis le début du conte. Et on a d'ailleurs vu, on a vu dans le conte, hein, que la femme dit « Oui, c'était pas un si vilain homme. Hein. » Elle dit pas d'ailleurs, elle parle pas du père. Hein, homme, c'est-à-dire du côté du couple. Donc pour moi, ce, comme diraient un peu les lacaniens, ce signifiant botte, c'est du féminin. C'est du féminin, c'est-à-dire la capacité à faire du lien. C'est avec le petit pouce, avec ses bottes que le petit poussé travaille pour la suite du conte. Et la suite du conte va nous permettre de comprendre et, à mon avis, de pouvoir affirmer avec justesse que ce féminin, que ses bottes, ça représente bien du féminin.
Alors, avant de travailler avec le roi, le petit poussé, grâce à ses bottes, va récupérer le trésor de l'ogre.
Voilà.
J'imagine une signification également importante.
Voilà. On ne sait absolument pas quelle est la nature du trésor. Ce qu'on sait par contre, c'est que c'est la femme qui donne le trésor. Vous voyez là aussi, c'est comme si elle était détentrice de ce trésor. Donc le trésor, il est donné par la femme de l'ogre, il est donné par du féminin. Donc pour moi, dans ce conte, il y a vraiment une carence terrifiante du féminin dès le début, chez le père bûcheron, chez le père ogre. Ça se restaure dans une certaine mesure par le père beauté dans son objet contenant. Et on va voir avec la suite que ça va transformer toute l'histoire.
Donc on peut imaginer qu'une fois que le petit poussé a récupéré le trésor de l'ogre, l'ogre est comme vidé de toute sa substance, de toute son énergie, de toute son même symbolique.
Oui, on peut penser du côté du masculin et du féminin, hein, que le père bûcheron, il était quand même relativement sexué pour avoir des enfants, encore qu'il n'y a pas besoin d'être beaucoup sexué pour avoir des enfants, 3 minutes ça suffit, après on peut oublier tout son côté masculin et tout son côté féminin. Le père ogre, c'est une figure vraiment sauvage et archaïque de père, perverse, pédophile. Le père beauté, ça me paraît être à ce moment-là une figure bisexuée, c'est-à-dire il est encore le père bûcheron incompétent et abandonnant, et il est en même temps le père ogre, mais il a aussi ce côté féminin, et voilà donc que le petit poussé récupère cette polarité féminine.
Alors que va-t-il faire avec cette énergie qu'il a récupérée, cette énergie que lui confère cet objet magique ?
Comme vous l'avez dit, il va donc récupérer d'abord le trésor. Hein, et d'ailleurs, il dit à la femme de l'ogre, ça aussi j'aime bien ces petits détails, il dit à la femme de l'ogre, je ne suis pas un affronteur. Hein, je ne suis pas un affronteur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je l'entends personnellement comme, j'ai pas envie de rentrer dans le conflit. Et surtout, j'ai pas envie de récupérer la violence de l'ogre, il me semble. Hein. Donc, il se différencie du père bûcheron qui a abandonné. Il se différencie du père ogre qui est un violeur. Et lui, il récupère la partie féminine manquante sous la forme de des bottes, mais il récupère un trésor, à mon avis, qui est un trésor énergétique, hein, ici. Hein, c'est-à-dire, il récupère de l'énergie psychique. Dit autrement, il récupère du désir, il récupère de l'envie de vivre. Hein, vous voyez, il me semble que c'est ça qui est essentiel dans cette partie-là. I'm doing fine.
no time to watch them.
L'histoire pourrait s'arrêter là, et dans de nombreuses versions du Petit Poucet, des versions un petit peu différentes, évidemment. Généralement, l'histoire s'arrête là avec la mort de l'ogre et puis l'enfant qui se sauve. Mais oui. dans la version de Charles Perrault, il y a une suite. Alors, oui. On pourrait penser, dans un premier temps, simplement, Charles Perrault ne voulait pas que son héros soit un voleur, et il lui a trouvé un prétexte pour avoir une bonne moralité à cette histoire. Mais
oui.
on peut y trouver également oui. beaucoup de oui. richesses sémantiques.
Et en effet, là, le conte s'arrête, mais Perrault, il rajoute quelque chose. Il rajoute, mais non, c'est pas possible que ça se termine comme ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est donc tout ce qui se passe au niveau du royaume. Et qu'est-ce qui se passe au niveau du royaume? Ça donne le sentiment que la petite histoire est solutionnée, c'est-à-dire l'histoire de cette petite famille, mais qu'il y a quelque chose de plus large. Au fond, comme si le collectif du savoir de ceux qui ont écrit ce conte, qui ont inventé, qui ont généré ce conte, connaissait bien le père Bûcheron, il connaissait bien le père Ogre, il connaissait peut-être bien le père Beauté, mais que ça n'allait pas. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc, on ne peut pas s'en tenir là. Même avec les bottes, même après avoir récupéré l'énergie du couple archétypique dans la sombre forêt, il faut remonter plus haut. Et qu'est-ce qui va se passer? Le petit poussé va aller voir une autre figure de père sous la figure du roi. Je reprends. Le père Bûcheron, le père Ogre, le père Beauté et le père Roi. Vous voyez, quatre figures de père, puisque le roi, on pourrait dire, c'est la figure du père, mais dans une dimension beaucoup plus collective. Hein. Donc ce père Roi, il est blessé. Et le conte nous donne des tas de petits détails. Par exemple, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de reine. Alors, c'est pas dit, mais il pourrait avoir une reine. Hein. Vous vous rappelez, par exemple, que tout le monde connaît, les auditeurs connaissent que dans l'histoire de Blanche-Neige, il y a une espèce d'horrible sorcière qui est la reine, et puis le roi, pratiquement, on n'en entend pas parler. Hein. C'est un petit peu la figure du garde-chasse, hein, mais en gros, c'est voilà. Là, il y a un roi qui ne va pas bien, c'est la guerre dans le royaume. Donc, vous voyez, à l'étage au-dessus, il y a encore quelque chose qui se passe et qui ne va pas bien, et là encore, il n'y a pas de féminin. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Qu'est-ce que va faire le petit poucet? Je crois que en tout cas, s'il retourne dans le royaume, c'est qu'il a envie, il a besoin, il y a une sorte de nécessité fondamentale de remonter la chaîne des causalités transgénérationnelles, d'aller voir dans l'histoire familiale ce qui a pu provoquer les problèmes. Donc, on est à l'étage du dessus, et là, il y a une bataille. La bataille, c'est, elle est autour du fait que le royaume est malade. Au fond, le père roi, c'est un père blessé. Et pour soigner ce royaume, eh ben, on ne va pas acheter les armes. On ne va pas aller commander les mercenaires. On ne va pas essayer de lever une deuxième ou une troisième armée. Non, il s'agit de quoi ? Il s'agit de faire du lien. C'est étonnant, hein ? C'est-à-dire, le petit poussé, il ne va pas apporter des armes. Il n'est pas un stratège. Voilà. Non, il fait du lien entre le roi et ses sujets, les soldats en l'occurrence, puisque le royaume est malade, il est en guerre intérieure, en guerre psychique intérieure. Et ensuite, il fait du lien encore entre les fiancés, les femmes et puis leurs maris. Vous voyez ? Donc, on voit bien qu'ici, que la fonction du petit poussé, c'est que de faire du lien. Et il fait ça pourquoi ? Parce qu'il a ses bottes.
Alors, on pourrait aussi imaginer que ses bottes lui permettent, après avoir résolu son problème personnel, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir au monde.
Oui. Oui, oui, tout à fait. Il s'ouvre au monde. Il s'ouvre au monde, mais je vous rappelle que on n'est pas là. Vous feriez vous plus une lecture, par exemple, sociologique, avec un élargissement du champ d'intervention et du champ thérapeutique qu'explore le petit poussé. Moi, ça me semble tout à fait intéressant et probablement très valable. Mais moi, je le vois en termes plus intérieurs, c'est-à-dire en termes plus personnels. C'est-à-dire, le petit poussé, il sait que en éliminant le roi, le père ogre, il soigne le père bûcheron. En découvrant et en récupérant quelque chose du père beauté, il soigne le père bûcheron. Mais que ça ne suffit pas, il faut aller regarder aussi le père roi, c'est-à-dire probablement le ou les grands-pères dans la famille. Hein, voilà. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, qu'on peut se rappeler que dans cette perspective-là, il y avait, au niveau de la scène réelle, c'est-à-dire du père bûcheron, il y avait le seigneur du village. Hein. Vous vous rappelez l'histoire du seigneur du village, hein, qui était, il y avait une dette. Hein. Il y avait une dette, c'est-à-dire le bûcheron et sa femme, le père bûcheron et sa femme avaient donné, on ne sait pas trop quoi, mais la dette n'avait pas été remboursée. Hein. Et on peut se demander si ce n'était pas une des causes de la famine, hein, à ce moment-là. Voilà, donc je crois que globalement, la guerre du royaume signifie que la blessure, finalement, elle se situe sur plusieurs générations ou, dans un langage un peu plus psychanalytique, elle se situe au niveau du soi, c'est-à-dire de cette part de l'enfant qui a été probablement blessée très précocement.
Alors finalement, toute cette histoire du petit poussé est très positive et très bénéfique pour le petit poussé. On a vraiment le sentiment qu'il s'en sort et qu'il répare toutes ses blessures intérieures et peut-être même les blessures qui sont des personnes qu'il côtoie, qui sont autour de lui.
Oui.
Grâce à cet objet magique, il va réussir à guérir.
Oui, oui,
et
oui.
Et à réparer peut-être même des blessures qui traînent sur plusieurs générations.
Voilà, plusieurs générations. Il arrive à les réparer, ou en tout cas, le conte dit que pour que tout ça se répare à l'intérieur de l'individu enfant, représenté ici par le petit poussé, parce qu'on verra probablement lors d'une prochaine émission qu'on peut lire ça comme l'histoire du père, pour que le petit poussé se répare, il faut qu'il arrive à se débarrasser du père ogre, il faut qu'il règle ses comptes avec la génération du dessus représentée par le roi, qui réintroduisent du féminin et que, vous voyez, partout, ils fassent du lien. Donc, au bout de ce travail, vraiment, le gain psychique est très important. Le petit poussé, il revient donc à la fin chez son père. Il contribue à renouveler la créativité de celui-ci. Il redonne aussi de l'énergie à ses frères. Et pour ça, il le fait grâce à quoi ? Grâce à ce qui est le fondement de son travail tout au long du conte, c'est de faire du lien, hein, de faire du lien. C'est-à-dire, à mon avis, de réintroduire du féminin. Quand je dis le féminin, c'est sur le plan archétypique, hein, ça n'a rien à voir avec les femmes. Hein. C'est ce féminin dans le sens de cette capacité à faire du lien.
Alors, quand à l'intérieur de nous-mêmes, nous avons un père ogre et qu'on arrive à le tuer, qu'est-ce qu'il en reste après de ce père ogre ? Il disparaît totalement dans la nature, il s'évapore ?
Oui, je pense que c'est important de souligner ça, parce que dans le conte, finalement, on s'en fout hein, de l'ogre. On s'en fout. Après, il a disparu. On ne dit pas, je ne sais pas trop quoi, qu'il est toujours en train de roupiller ou qu'il est mort, on ne dit pas. Alors, je pense d'ailleurs que, eh ben, qu'on peut envisager les deux hypothèses. C'est-à-dire que le père Ogre, il est toujours sur son rocher en train de dormir. C'est-à-dire que le conte dit que, éventuellement, dans certaines circonstances, vous voyez, le père Ogre, il peut se réveiller, même si le petit poussé a fait ce travail-là. Et je dirais, pour changer complètement de registre, c'est que de temps en temps, vous voyez, par exemple, moi, je peux recevoir des analysants qui viennent, et puis ils vont venir pendant 2-3 ans, par exemple, et puis il y a quelque chose qui se répare. Et puis de temps en temps, plus tard, parce qu'il va y avoir un autre événement douloureux, difficile, une séparation, un deuil, plein de choses, où ils vont perdre leurs parents, par exemple, de temps en temps, ils vont revenir refaire une petite tranche. Parce qu'en l'occurrence, chez un homme, par exemple, eh bien, son père ogre s'est réveillé. Par exemple, quand le père réel meurt, eh bien, il y a des tas de souvenirs qui reviennent, des tas de choses comme ça qui reviennent. Voilà. Mais dans certaines circonstances, le travail psychique qui a été fait, en particulier s'il a été fait à la génération du dessus, c'est-à-dire si le royaume a été vraiment réparé, alors ça permet que l'individu, dans sa globalité, garde une cicatrice, bien évidemment, on garde une cicatrice, mais on touche la cicatrice, on sent qu'elle est là, mais elle est plus douloureuse.
Eh bien, nous allons nous quitter sur cette note positive, docteur Dominique Michel, et puis je vous propose de nous revoir dans 15 jours, afin d'approfondir ce conte du petit poussé sous l'angle du père, par exemple.
Très bien, au revoir.
Turn away from the sound of your own voice, calling no one, just the silence, a deceiver around the edge, fall off the avalanche. Hold, hold the light that fixes you in time, keeps you under, takes you over. Once you have spoken.